Salut Eric, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi, Dom?
Ouais, ça va bien. J'ai une question pour toi qui est un coach, qui va être coach toute sa vie dans l'âme. Hier, à Glendale, en Arizona, le Canadien a gagné 4-1. Là, pendant le match, Carey Price a reçu un coup de patin sur le casque, puis on ne l'a pas envoyé au protocole de commotion. Y a-tu deux protocoles? Un protocole pour les joueurs et un protocole pour les goalers?
Ben, tu viens de le dire. Ça fait pas la première fois. Puis je l'avais entendu l'an passé dans un reportage lors d'un match de la Ligue nationale, comme la position de gardien de but est névralgique et qu'il y a juste deux joueurs, je pense qu'ils sont plus permissifs. Ils sont plus, ça devrait pas, là, mais c'est pas la première fois qu'on entend cette remarque-là. Puis c'est tout à fait la réaction que j'ai eue hier quand j'ai vu qu'il n'a pas été envoyé. Puis t'as vu qu'à un moment donné, Carey Price, c'est comme ressaisant en disant « C'est vrai, faut pas que je reste trop longtemps penché parce qu'ils vont me faire sortir. » Et là, il s'est redressé dans son filet. Puis moi aussi, je me disais « Oups, qu'est-ce qui arrive avec le gardien? Ils vont-tu faire de quoi? » Puis comme de fait, il n'a rien fait. Mais je pense que oui, ils sont un petit peu plus lousses quand vient le temps que ce soit un gardien. Puis c'est pas la première fois qu'on le voit.
Parce que je sais pas c'est quoi la suite. J'espère que Price aura rien, mais c'est parce que c'est le genre de blessure qu'il faut que tu traites quand elle arrive, hein?
Oui, puis on sait même pas ce soir si... on l'a vu, par exemple, que ça a sorti deux puis trois jours après, même s'il était devant le filet ce soir ou s'il était pas en mesure de jouer, peu importe la décision qui serait prise, il faut comprendre que ça peut arriver 48 heures après. C'est pour ça que, oui, je me suis posé la question... Puis c'est un sujet qui est touché parce que, sauf qu'il faut faire attention, là, de faire sortir un joueur à chaque coup à la tête, faut être prudent, faut quand même se fier. Là, moi, je pense que si Price s'est relevé, qu'il est en mesure de continuer, puis qu'il n'y a pas eu d'effet après, j'ai tendance à croire que ça se peut d'avoir un coup sur la tête. Chaque coup sur la tête ne veut pas dire commotion cérébrale.
Non, je suis d'accord.
Il faut être prudent, puis je pense que des fois, même, là, des envoyés dans la chambre noire, ça vient un peu trop vite. Hier, quand j'ai vu que Price était capable de continuer, je me dis il était correct, mais je suis d'accord avec toi, il faut se poser la question. Je pense qu'ils sont un peu plus lousses avec les gardiens.
Éric, la semaine dernière, j'ai arbitré une game d'hockey scolaire. Puis il y a un petit gars qui a été sonné dans le coin de la patinoire. Puis moi, j'étais juge de ligne. Fait que j'ai pas trop vu ce qui est arrivé, mais j'ai vu que ça a été plus long une fois que l'arbitre a sifflé l'arrêt du gardien. Ça a été plus long à se relever. Fait que là, moi, j'étais allé le voir avant qu'on remette la mise en jeu. Puis j'ai dit, t'es sûr que tu veux pas aller au banc? Tu veux pas nexer, comme on dit en termes de hockey, tu sais?
Oui.
Il m'a dit, non, je vais être correct. Mais là, le kid, il a, je sais pas, 14-15 ans. Il me dit, non, je vais être correct. Là, moi, je suis pas son père, je suis pas son coach, je suis juge de ligne d'une game d'hockey scolaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le hors-jeu suivant, j'étais allé dire à son coach, j'ai pris son numéro en note dans ma tête, puis j'étais allé dire à son coach, je sais pas si tu l'as vu, mais dans le coin tantôt, il est mal tombé, puis il avait l'air sonné. Fait qu'il dit, hey, parfait, un gros merci de me l'avoir dit, je vais faire le suivi. Puis là, dans ces games-là, il y a un soigneur de l'équipe locale. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que tout de suite, ils ont demandé à la soigneuse de l'autre équipe, de venir au banc de cette équipe-là. Puis elle a jasé avec le joueur, puis ils ont fait le suivi. Mais tu sais, le kid qui me dit non, c'est correct, dans un contexte 2019 de commotion, je pouvais pas ben le laisser aller, là.
Ben, moi, je pense que ce que t'as fait devrait être fait par tous les arbitres. Je trouve extraordinaire que les arbitres puissent réagir de la sorte. Parce que les arbitres font partie du mode d'éducation sur la glace, puis font partie de ce qui se passe sur une patinoire. C'est pas juste les entraîneurs puis les joueurs. Puis quand en termes de sécurité comme ça, les arbitres peuvent s'intervenir, je pense que les arbitres voient bien des choses que des fois, dans le feu de l'action, un entraîneur, tu vois pas.
C'est
on
ça.
Entend souvent le contraire, là. Les coachs se plaignent souvent que les arbitres voient pas tout.
Ouais.
Mais
ça, c'est un autre débat, ça.
Oui, mais au contraire, je trouve que si on est capable de sensibiliser tout le monde puis que tout le monde est conscient que les arbitres font partie de ce fameux protocole-là des commotions, mais l'hockey va être gagnant parce qu'on veut rendre l'hockey de plus en plus sécuritaire. Puis c'est tout à fait... Je te félicite de l'action que tu as été prise. Je pense que c'est le genre d'action que tous les arbitres devraient faire, devraient prendre, parce que on veut assurer la sécurité des joueurs. On veut que les jeunes s'amusent, mais on veut aussi assurer la sécurité. Puis dans une action comme celle-là, où toi, tu es en mesure d'être témoin de ça, puis de semer le doute, j'irais même plus loin qu'à un moment donné, je pense même qu'il faudrait donner assez de pouvoir aux arbitres. La journée qu'on se rend compte qu'un arbitre détermine qu'un geste comme tu as vu l'autre fois, l'arbitre devrait avoir le pouvoir de dire à l'entraîneur tu es obligé de le débarquer pour être capable. Là, dans la Ligue nationale, ce qu'on fait présentement, c'est que c'est un observateur externe qui peut dire débarquer ce gars-là, mais je pense au niveau du hockey mineur, ce serait tout à fait génial, je pense, que ce soit fait, que les entraîneurs soient sensibilisés, les arbitres soient sensibilisés à ça. Là, c'est sûr que tu vas entendre des entraîneurs dire c'est pas un arbitre qui va décider si je débarque mes joueurs. Là, au contraire, on est là pour la sécurité des joueurs.
Non, on débarque pas pour que tu n'embarques un meilleur ou un moins bon. On débarque parce qu'il a été sonné dans le coin.
Ben, c'est ça. C'est que moi, je trouve que ça devrait faire partie du protocole. Puis on améliorerait encore de façon importante la sécurité de nos jeunes avec ça.
Absolument. OK. Ce soir, le Canadien est à Vegas pour affronter une équipe que, à moins que tu me ramènes sur terre, une équipe que moi, je trouve excellente. L'affiche victoire-défaite depuis le début de la saison est pas extraordinaire, mais en date d'aujourd'hui, Éric, dans la mesure où les Blues ont gagné la Coupe, mais ça a eu l'air d'une histoire de 4 mois, puis là, Tarasenko est blessé pour le reste de la saison régulière, le Lightning est tout croche, Toronto est tout croche. Si tu faisais un test ce soir avec 4-5 chums, puis tu leur demandais, la meilleure équipe de la Ligue en date d'aujourd'hui, les gars, l'équipe qui est la plus susceptible de gagner la Coupe Stanley, moi, si tu me demandes à moi de répondre à cette question-là, je répondrais Vegas, Éric.
J'ai le goût de te dire qu'en date du 31 octobre, c'est difficile d'être capable de dire qui va gagner la Coupe Stanley parce qu'on est tous sur les breaks avec ce qui est arrivé l'an passé. La victoire de Saint-Louis a mis un frein à tout le monde dans l'aspect de prétendre qu'on connaît puis qu'on peut prédire qui va gagner. Ce qui arrive avec les équipes de l'Ouest, on s'est fait prendre avec Saint-Louis l'an passé. Vegas, tu sais, Vegas, on aime l'histoire parce qu'il y a Fleury, il y a Pacioretty, il y a l'histoire du compte de fruits qu'il y a eu il y a 2 ans. Mais c'est un club qu'on voit pas beaucoup. D'être capable d'expliquer leur fiche, faut que tu sois prêt à écouter le hockey très tard à chaque soir pour être capable de le faire. C'est qu'il nous manque trop de données encore en ce début d'année pour dire un club, es-tu dans bonne voie, es-tu pas dans bonne voie. Sur papier, c'est très clair que c'est un club que j'adore moi aussi, parce que c'est un club qui, en plus d'être capable de compter des buts, est capable de bien jouer collectivement. Sauf qu'il y a tellement d'éléments externes, mais c'est un club à considérer. C'est un club qui est sans aucun doute à considérer. Il y en a déjà qui s'inquiètent présentement à savoir s'ils font gauler leur gardien trop, leur gardien numéro un trop souvent. Moi, j'ai le goût de te dire non, parce qu'un gauleur, inquiète-toi pas, il va te le dire. Puis là, on repartira pas le débat de Carey Price s'il doit gauler 60 matchs, 70 matchs dans une saison. Mais au bout de la ligne, oui, Vegas est dans la course, mais il y a encore beaucoup d'équipes à ce temps-ci qui risque d'être dans la course, puis je ferais pas comme le gars de Houston puis de gager 3,5 millions de suite avant que la dernière série commence.
Non, le monsieur de meubles, là.
Il y a eu une mauvaise surprise au bout de la ligne. Pour la Ligue nationale, c'est vrai qu'il y a de la parité, Dan, de plus en plus. Là, c'est pas juste un terme à la mode, là. C'est tellement serré, puis tes résultats peuvent tellement être influencés par le calendrier de l'adversaire, par ton propre calendrier, par l'état des blessures. Je prends exemple, hier, Canadien a eu un avantage majeur face à l'Arizona qui avait un calendrier qui favorisait le fait que Canadien, tout est en place pour qu'il les batte. C'est qu'il y a tellement d'impondérables dans la saison, ça va vraiment être dans le dernier stretch du mois de février, à partir du mois de février, qu'on va être en mesure de dire, mais je suis convaincu que je suis d'accord avec toi que Vegas va être dans la course.
OK, parlons-en de calendrier. J'étais à l'antichambre hier, puis le collègue Tony Marinaro a proposé un changement, une refonte du calendrier de la LNH. Lui, il dit qu'il y a trop de 2 matchs en 2 soirs, puis que ça a nuit au spectacle. Comme coach, toi, est-ce que tu souhaiterais ça?
Mais des matchs en 2 soirs, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça fait partie du calendrier. T'as pas le choix. J'écoutais justement l'émission d'hier, puis je sais qu'il proposait des séries de 3 matchs contre la même équipe.
Comme au baseball, un peu, ouais.
Ouais, mais moi, j'aime pas au hockey que les équipes s'affrontent back-à-back de même dans la saison. Là, c'est que j'aime que les équipes soient réparties et que tu aies la chance de les voir une fois avant fête, une fois après fête. T'as pas tout à fait le même genre d'équipe avant fête, après fête. Si t'es affronté dans une séquence, par exemple, tu joues contre Pittsburgh, puis Malkin, Crosby sont blessés dans cette semaine-là, je trouve ça pas juste le fait que c'est toi qui les affrontes 2 fois dans la même semaine. Okay. C'est que non, je suis pas un grand fan. J'adore les séries 4-7 d'un séries éliminatoires parce qu'il y a un engouement, il y a une rivalité. T'as un club à éliminer. Mais je trouve pas honnêtement qu'un back-to-back dans saison régulière, que ça donne un bon show.
Okay.
Ça donne pas assez de temps pour créer une rivalité. L'hockey étant ce qui est aujourd'hui, où on fait beaucoup de vidéos, où on tu sais, quand on fait du vidéo, Dan, comme coach, là, la principale fonction de faire du vidéo, c'est de comment empêcher l'autre club de marquer.
Ouais.
On met beaucoup plus l'accent sur comment empêcher l'autre club d'avoir du succès que nous, comment avoir du succès offensivement contre l'autre équipe. Malheureusement, on a beau dire qu'on cherche des solutions pour créer de l'attaque, c'est plus facile dans une préparation de match de trouver une façon de contrer l'adversaire que d'essayer de dire comment moi je peux pouvoir prendre avantage avec mon offensive. C'est que deux matchs en deux soirs, je trouve que ça va rendre l'hockey encore plus défensif parce que le deuxième soir, tu t'ajustes tout de suite. C'est pour ça qu'il se compte moins de buts dans les séries éliminatoires. Fait que je trouve qu'amener ça dans la saison régulière, c'est pas une formule que j'aime beaucoup. Le back-à-back crée pas la rivalité, puis ça, je serais, oui, dans les séries, mais pas dans la saison.
OK. La semaine dernière, ensemble, on s'interrogeait, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on s'inquiétait, mais on s'interrogeait sur Mike Babcock, puis sur le fait qu'il est peut-être en danger. Je laisse complètement de côté les Leafs de Toronto, mais là, je veux te parler du Lightning. Lightning, 6-4-2 la fiche. On s'entend-tu que c'est 6-6, dans le fond, leur fiche? C'était nul, puis finalement, ils ont perdu en tir de barrage ou en prolongation, mais c'était un match nul à la base. 6-6 la fiche du Lightning au bout de 12 matchs. Faut-tu que je commence à être inquiet de ça?
Moi, oui, parce que c'est un club qui... c'était une terrible déception l'an passé. C'est encore une plus grande déception qu'à Toronto. Toronto, c'est l'historique qui fait qu'on est encore très, très déçus. Parce que Toronto n'a peut-être pas encore l'équipe. Tu sais, reposant la question, Toronto, avais-tu vraiment l'équipe pour battre Boston? Je peux pas te dire oui. Ils ont perdu depuis 2 ans, mais je peux pas te dire que sur papier, c'est une équipe terriblement plus forte que Boston. Quand tu arrives avec le Lightning, qui se sont enfargés l'an passé, en début d'année, en début de série, dès la première ronde, après une année extraordinaire, cette année, c'est pas une équipe qui a complètement changé son ADN. Hein. C'est une équipe qui est pas bâtie pour les séries éliminatoires, et là, c'est sûr qu'on va se mettre à regarder le coach. Là. Parce que malheureusement, quand il y a une défaite, je dis pas que j'aime pas ce coach-là, au contraire. Sauf qu'il va avoir beaucoup de questions qui vont s'être posées. Je pense qu'il y a une très bonne relation avec son gérant. Sauf qu'il va devoir être en mesure.
Nouveau gérant quand même. Nouveau gérant, pardon? Julien Brisebois. Nouveau gérant, là.
Oui, mais il l'a eu l'an passé.
Il le connaissait. Il le connaissait aussi, là. Ouais, okay.
Il se connaissait déjà. Okay. Il était là l'an passé, mais moi, je pense qu'il passe sous le radar présentement. Mais c'en est un qui a beaucoup de pression parce que c'est beau, oui, il va être évalué ses séries éliminatoires, mais il va être évalué ses séries en pensant qu'ils vont avoir une Christie de bonne saison encore. Et là, c'est pas ça qui est en train de se passer. Puis c'est pas parce qu'ils sont en train de changer la moulure de l'équipe ou le système de jeu de l'équipe. Je pense que l'équipe joue pas comme elle devrait jouer, là, oublions les blessures. Mais au-delà de ça, oui, je pense que si on arrive au fight et qu'il joue encore 500, il va y avoir beaucoup de questionnements et la pression va venir très forte derrière le banc.
Tu m'as toujours dit qu'aller jusqu'à l'action de grâce américaine, là, mettons, jusqu'à la fin novembre, il ne fallait pas trop capoter avec ça. Les systèmes de jeu embarquent un peu plus tard.
Oui.
Mais si, dans le fond, le Lightning a un mois pour se replacer, sinon ça va être rough. Là.
Mais ils ne prendront pas prématuré parce qu'ils l'auraient fait à la fin de l'année l'an passé. Sauf que si en janvier, ils sentent que ça lève pas plus pour passer à l'autre niveau. C'est comme s'ils embarquaient pas dans deuxième vitesse. Là, je pense qu'ils vont peut-être créer un électrochoc. Pas parce que le club va mal, parce que le club répond pas exactement aux attentes qui sont placées. Et là, l'inquiétude peut prendre de savoir qu'est-ce qui va arriver en série si on se replace pas. On connaît pas encore Julien Brisebois à savoir quel genre de gérant il est puis quel type de patience qu'il a avec son entraîneur parce qu'il a jamais congédié un entraîneur. Les gérants, on les connaît à partir du moment où ils ont déjà congédié quelqu'un. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer après les fêtes.
Est-ce que le mauvais début de saison est automatiquement lié à la défaite en 4 matchs contre Columbus ou on est rendu dans une autre saison puis il n'y a plus de conséquences de ça?
Je pense plus qu'il y ait de conséquences.
Okay.
Je pense plus qu'il y ait de conséquences. Je suis juste en train de me demander, puis c'est pour ça que je te dis qu'il faut être patient jusqu'en janvier, je suis juste en train de me demander, est-ce que le club va avoir la pédale dans le plancher tout au long de la saison, puis que l'an passé, ça a cassé dans les séries? C'est-tu de même qu'ils ont évalué, puis qu'ils se sont dit, on va peut-être moins pousser la machine? C'est plein de choses qu'on peut pas évaluer sur une courte période de temps, sur une douzaine de matchs. Mais quand va arriver l'approche de la mi-saison à tout près de 40 matchs, là, on va se dire, C'est quoi? Les gars ont-tu arrêté d'y croire? Les gars ont-tu moins confiance au coach? Le système de jeu a-tu changé? Là, tous les éléments vont être en place pour on va être capable de faire la vraie évaluation de qu'est-ce qui explique. Mais la défaite, je pense pas, c'est oublié ça. Des professionnels reviennent. La défaite affaisse quand tu arrives dans les séries. Ils vont commencer leur série de façon très, très nerveuse l'an prochain pour pas se faire dire, bon, on espère que ça arrivera pas encore. Mais dans saison, je pense pas. C'est plus de savoir, ils se disent, tu, on lève le pied un petit peu pour qu'il nous reste du gaz à la fin de l'année. Okay. C'est ça qui va rester à mesurer. Là.
Dernier sujet sur lequel je veux m'arrêter ce soir avec toi, c'est Alexander Ovechkin. Il marque tous ses buts à peu près du même endroit. Comment ça, rendu à 13, 14, 15 ans plus tard, en fonction de son arrivée dans la Ligue nationale, il est arrivé en 2005, là. Comment il réussit, même si tout le monde sur la planète est au courant qu'il va marquer de là, comment il réussit encore à marquer de là?
Pour être capable de marquer de là et continuer à marquer de là, à mon avis, faut que tu continues à jouer avec des bons joueurs. Parce qu'il y a des équipes qui ont essayé de l'isoler. Mais à partir du moment où tu l'isolais, c'est Backstrom qui allait scorer à côté. C'est que si tu joues avec des bons joueurs, puis qu'au bout de la ligne, c'est d'autres qui se mettent à produire. C'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu leur libères. Puis tu remarqueras qu'ils comptent beaucoup de buts à 5 contre 4, ce qui fait en sorte qu'à 5 contre 4, peu importe le système que tu vas prendre, tu peux pas isoler un joueur en désavantage numérique. Puis Ovechkin, avec ses qualités et ses défauts, il a une crise de qualité, il trouve toujours le moyen d'aller retrouver l'espace libre, puis il a une qualité qu'on n'y enlèvera jamais. C'est un laser. C'est un laser, son lancer. C'est inimaginable parce que tu as tout à fait raison de poser la question. On se dit tout le temps, mais on va l'isoler et on va faire en sorte qu'il ne pourra pas le prendre, son lancer. À 5 contre 4, tu ne peux pas l'isoler. Puis autrement, si tu focuses trop sur lui, tu libères d'autres joueurs de talent avec lui. Mais au bout de la ligne, il faut élever notre chapeau. Il faut se dire la qualité du lancer qu'il a. Tu sais, on parle présentement de Shea Weber, un Canadien, son lancer est un peu moins précis que dans le temps. C'est comme si Ovechkin, il perd pas sa précision. Il continue à lancer. En plus d'être un missile, c'est un laser qui va exactement où il veut. La vraie question que tu devrais poser, c'est au gardien, dire, vous le savez en plus qu'elle va venir de là, mais il n'y a rien à faire. Tu vas lancer à répétition par répétition, puis il compte ses buts toujours de la même façon. Mais dans ce temps-là, je pense qu'il faut dire bravo, faut rendre crédit au gars, parce qu'il y a quelque chose que les autres n'ont pas qui fait qu'il n'est pas arrêtable.
Un gros merci, Éric. Bonne soirée à toi.
Salut, Dan. Merci beaucoup.
Bye-bye. Éric Lanigne, le coin du coach, chaque jeudi, dans l'avant-match.